9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, on parle de la soirée spéciale sur France 3, Philippe, qui se mobilise contre la maltraitance.
Oui, chaque jour en France, des enfants sont maltraités. Un enfant meurt tous les 3 jours, dit-on, sous les coups d'un ou d'une proche. On estime à plus de 50 000 le nombre de mineurs victimes de mauvais traitements chaque année. Question, pourquoi tant d'enfants maltraités ne sont-ils pas repérés, trop rarement signalés? Quels sont les signaux qui doivent alerter les professionnels, mais également pour chacun d'entre nous? Et c'est le thème qu'a choisi France 3 pour cette soirée continue avec une fiction, un débat et un documentaire. Ce sera ce soir à partir de 21h05. Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Faut-il le dire, vous êtes comédienne et vous êtes Céline, institutrice dans le film La Maladroite. Bonjour Cyril Danvers.
Bonjour.
Vous avez réalisé Les Enfants Maudits, un documentaire poignant sur ce qui est une sorte de scandale méconnu et qui a perduré un siècle en plein milieu de Paris, la prison de la Petite Roquette, un pénitencier pour enfants. Je vais commencer avec vous Isabelle Carré dans La Maladroite. C'est avec Émilie Dequesne et la petite Elsa Ivaert, qui est absolument incroyable, d'avoir 6 ou 7 ans. Vous incarnez Céline, la première institutrice de Stella. C'est quoi l'histoire ?
L'histoire, c'est malheureusement une histoire vraie. Alors je rassure tout de suite les téléspectateurs, on ne voit pas de maltraitance, on ne voit rien en fait. C'était très important pour moi de participer à un film où je ne sois pas choquée en tant que maman.
Je voudrais dire quelque chose pour les téléspectateurs, oui. Il y a quelque chose d'incroyable parce que je l'ai vu, c'est qu'on ne sait pas si c'est de la maltraitance ou si les parents sont sincères. Donc il ne faut pas spoiler l'histoire.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on se met dans la peau. Ce téléfilm ne juge pas, ne juge personne. C'est dire la difficulté, en fait, quand on est institutrice, comme l'est mon personnage, et qu'on est confronté à ça, voir une petite fille qui a des marques, et puis on ne sait pas, et puis tout de suite, le parent efface, en fait, en trouvant une très bonne excuse.
Une excuse, et qui est plausible.
Qui est plausible, et alors qu'est-ce qu'on fait ?
Excuse répandue par la petite fille elle-même.
Voilà, qui protège les parents. Bah oui, il y a ce conflit de loyauté qui fait que malheureusement, les enfants protègent toujours leurs parents. Alors on avance comme ça avec elle en fait. Et c'est là où c'est très intéressant et où le scénario de François Charpia est excellent. C'est-à-dire qu'on se met vraiment dans la peau de ce qu'on est nous tous les jours et face à nos responsabilités. Il paraît qu'il y a, j'entendais Adrien Taquet, le ministre chargé de ce dossier, dire hier à France Télévisions que une personne sur 4 seulement appelait le 119 pour dénoncer des cris qu'il entendait derrière la cloison.
Ouais.
Voilà, ce film, en fait, il parle de ça, de notre responsabilité à tous. Et j'en profite pour redire le 119, qui est le numéro qu'il faut appeler. Et quand on a un enfant, c'est le 119, parce que des fois, on ne sait pas dire 100, c'est un peu compliqué. Donc 119 pour les enfants. Ils prennent en priorité les enfants.
Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance et qui sera ce soir dans le débat animé par Carole Gessler.
Et qui va annoncer des nouvelles dispositions dès demain.
Alors vous l'avez dit, le film commence par cette mise en garde. Ceci est une fiction inspirée de faits réels. On va entendre un extrait, c'est même pas un extrait, c'est le début. C'est la petite Stella qui parle et la première séquence est très forte.
Qu'est-ce que tu fais en classe ?
J'écoute des histoires, je fais de la peinture et il y a même des poissons rouges.
T'aimes bien l'école, dis donc Stella ?
Oui.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?
Gendarme.
Ah bon ? Pourquoi tu veux devenir gendarme ?
Pour aider les autres.
Elle veut devenir gendarme pour aider les autres. Et ce qu'on voit dans le film, c'est que parfois, même les médecins disent « Mais non, c'est rien, il n'y a rien du tout, ça va, c'est une écorchure. » Et le rapport avec les gendarmes n'est pas facile non plus, c'est très difficile.
Mais c'est plus facile en fait d'être dans le déni. Pour beaucoup de choses de ce genre, c'est tellement aberrant, atroce d'entendre ces chiffres que vous citiez. Effectivement, presque 2 enfants par semaine qui meurent sous les coups de leurs parents la plupart du temps.
Ouais.
Vous parliez des enfants maltraités, environ 50 000, mais on peut aussi parler des maltraitances sexuelles, des violences sexuelles qui sont de l'ordre de 27 000, et c'est probablement le double. Donc c'est tellement inadmissible en fait qu'on préfère fermer les yeux. Et ce que dénonce aussi le film, c'est que chacun reste un peu dans son rôle. Et ce qui manque, en fait, c'est un lien entre chacun.
Ah, je ne suis même pas d'accord. C'est encore moins manichéen que ça. Ce qui est formidable, c'est que vous allez voir votre collègue institutrice et qui elle-même ne veut pas voir la réalité en face. Et il n'y a pas les bons et les méchants.
Non, il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a des gens qui n'ont pas aussi de formation. Ouais. Et c'est ça que je parlais des annonces d'Adrien Taquet. C'est ça aussi qui va avoir lieu demain. C'est-à-dire, oui, on a besoin de formation, d'un référentiel pour repérer, en fait.
Comment vous avez préparé ce rôle? Vous êtes allé voir des institutrices, des parents, des gendarmes?
J'ai parlé un petit peu avec l'institutrice, parce que je suis institutrice de CP dans le film. Donc, ouais. J'ai parlé avec l'institutrice de ma fille, en fait. Ouais. Et ça m'a bien aidée. Et elle m'a raconté un petit peu ce à quoi elle avait été confrontée elle-même. Et puis sinon, j'ai pas voulu, en fait, me renseigner plus que ça sur la vraie histoire, parce que je voulais rester dans la peau de cette femme qui découvre en même temps que le spectateur, en fait.
Cyril Danvers, vous avez vu la fiction?
Absolument.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'ai été bluffé par l'intelligence du traitement, justement par rapport à la différence par rapport au documentaire, où on serait obligé d'aller dans les faits durs, montrer des photos. Il y a une intelligence de traitement qui fait qu'on ne voit pas jamais les violences, et donc on les vit en creux lorsque c'est peu à peu constaté dans le milieu scolaire. Voilà. Et quand en plus la fiction est portée par autant de talents d'interprétation, ça donne un film extrêmement juste, extrêmement touchant, et qui, à mon avis, arrive à être une fiction gracieuse quand même, sur un sujet extrêmement dur.
C'est ce soir sur France 3, et on parle de toute cette soirée continue avec vous deux.
Oui, une soirée spéciale hein, autour de la maltraitance dans le cadre des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. On y revient dans un instant avec vos invités, Philippe Vandel sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
France 3 diffuse une soirée spéciale Comment sauver les enfants battus à partir de 21h05 avec un téléfilm, La Maladroite, où joue notre invitée Isabelle Carré, suivi d'un documentaire, Les Enfants Maudits, réalisé par Cyril Danvers, qui est également avec nous ce matin, Philippe.
Cyril Danvers, votre doc a été récompensé au Festival des créations télé de Luchon en 2019. Il a reçu le prix de la réalisation et le prix du public. Ça s'appelle Les Enfants Maudits. Ça parle d'un des plus grands scandales français du siècle dernier. Enfin, je dis scandale méconnu, puisque avant votre doc, j'ignorais ce que c'était. La petite roquette, c'était quoi la petite roquette?
Une machine carcérale de 500 cellules qui, pendant un siècle, a broyé des gamins.
C'est-à-dire que c'était un pénitencier pour enfants?
Un pénitencier, le pénitencier français pour enfants, voilà, qui était la plateforme parisienne d'enfermement des mineurs sur toute la France, à partir de laquelle on envoyait aussi après, dans un second temps, les gamins finir leur peine en province.
En plein cœur de Paris, rue de la Roquette, d'où le nom La Petite Roquette. Votre doc commence avec des jeunes comédiens qui lisent des lettres très poignantes. C'est quoi l'histoire de ces lettres? Comment ont-elles été retrouvées?
Un peu par hasard, moi je connaissais l'histoire de La Petite Roquette depuis un moment, parce que j'avais travaillé sur la justice des mineurs aujourd'hui, donc j'étais parti un peu sur l'histoire de la justice des mineurs française. Mais impossible de faire ce film parce qu'il n'y a plus aucune archive. Le pénitencier a été rasé en 1974. Curieusement, les archives demeurent introuvables depuis. Donc il n'y a pas grand-chose à part une cinquantaine de photos au ministère de la Justice qui m'ont d'ailleurs été remises par le ministère de la Justice. Donc jusque-là, on avait du mal à pouvoir envisager ce film. Et puis un jour, on a vu passer une lettre sur Internet d'un monsieur qui faisait des conférences autour de quelques lettres de gamins enfermés à La Petite Roquette au début du XXe siècle. On a pris ce contact avec ce monsieur. Et là, moi, je suis tombé sur un gisement de 200 pièces, 200 lettres écrites de l'intérieur par des gamins de 8 à 19 ans.
Et comment il avait récupéré ça, lui?
Alors lui, il les a récupérés.
Il le raconte dans le doc.
Il le raconte, ouais.
Un peu par hasard. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a perçu la valeur de ces lettres.
Historique, ouais.
Ouais. Et ce qui est absolument dingue, c'est que si on lit ces lettres, si on les lit, c'est qu'elles ont été conservées. Si on les a conservées, c'est qu'elles n'ont jamais été reçues par les parents.
Terrible.
Et c'est encore plus poignant de les entendre. On va entendre une lettre lue par un jeune comédien.
Chère sœur, je t'écris cette lettre car tu dois avoir su que j'ai été arrêté sur le boulevard Raspail avec le cousin Milo et l'on m'accuse de vol et de port d'armes prohibées. Tu parles de la trempe que j'ai reçue. J'avais un œil au beurre noir et les oreilles grosses comme les poings. Et les bosses, je les comptais même pas car j'en étais rempli. Tu penses? Quand je me suis revu au dépôt, j'avais pas le sourire. Car comme tu sais, je sortais de m'enfoncer 9 mois et je suis resté 7 jours dehors. Ce n'est pas trop, mais je te promets que quand je sortirai, je me mettrai au boulot. Car j'en ai assez de la vie de prison.
Ah, la vie de la prison, il faut la raconter. Ils sont tous à l'isolement. Ils n'ont pas le droit de parler. Il y a la messe une fois par semaine le dimanche. Et la manière dont ils se déplacent à la messe, c'est caché. On leur met une sorte de camisole sur le visage pour qu'aucun ne se voit. Et ils sont eux-mêmes ensuite dans des cellules, comme on dirait,
C'est des cellules, on appelle ça l'encellulement individuel. En fait, c'était une doctrine expérimentale et progressiste à l'époque. On imaginait qu'on ne voulait pas que les gamins se pervertissent entre eux.
Ouais.
Donc on les isolait en permanence. La cellule était le lieu de vie permanent pour travailler, se nourrir, enfin ce qu'ils pouvaient manger, c'est-à-dire pas grand-chose, dormir et recevoir un enseignement évidemment très léger.
Alors, c'est de quel âge à quel âge ?
De 7 à 21 ans.
7 ?
7 ans. Et alors, attendez, il y avait plusieurs catégories.
Mais on a a priori des gamins de 5 ans ou 6 ans, hein, là-bas.
Il y avait les Apaches qui faisaient des mauvais coups, on les mettait en prison. Mais il y avait une deuxième catégorie, il y avait les orphelins ou les mendiants. Il était interdit de mendier. Et les orphelins, comme il n'y avait aucune autre structure, on les mettait en cabane. Et le truc le plus violent, je trouve, c'était les garçons de la correction. Dites ce que c'était.
Alors, il y a 80% des gamins à l'intérieur sont des vagabonds. Donc c'était un délit à l'époque, donc ils sont quand même innocents.
Ouais.
Et puis il y a les gamins, la correction paternelle, en fait, qui viennent la plupart du temps de familles plus bourgeoises, parce que évidemment le contexte social des gamins, les conditions sociales des gamins qui sont là-bas, elles sont venues des couches populaires
Reste une minute, donc racontez-vite ce que c'était.
Et la correction paternelle, c'est on avait le droit à un père ou une mère d'ailleurs, appeler le juge d'arrondissement pour dire venez chercher mon gamin, je suis pas satisfait de lui, j'ai besoin que vous le remettiez dans le droit chemin pendant 2 mois, 4 mois, 6 mois.
Voilà. Et mettait en prison, il suffisait de payer les frais et absolument. La personne pouvait rester en prison. Et il y a des lettres absolument poignantes de gamins qui écrivent à leurs parents, qui disent « Mes chers parents, je vous aime, je comprends ce que vous avez fait, je promets de devenir un type meilleur. » C'est juste complètement incroyable. Ça s'appelle, j'ai oublié, Les Enfants Maudits. Ça sera ce soir. Il y aura d'abord le téléfilm avec vous, Isabelle Carré, qui s'appelle La Maladroite. Et il y aura aussi un débat « Enfants maltraités, comment les sauver ?» présenté par Carole Guessler, avec Adrien Taquet, vous l'avez dit, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Thierry Beccaro, qui a raconté dans un livre les souffrances infinies subies
La présidente par son père. La Voix de l'Enfant aussi.
Exactement, Martine Brousse. Et puis il y aura un gendarme aussi chargé de recueillir la parole des enfants.
Il faut saluer, je trouve, France Télévisions, qui vraiment s'est engagée, plus qu'engagée, pour les droits de l'enfant. Ce 30e anniversaire des droits de l'enfant qui a lieu demain, je trouve qu'ils ont fait un travail complètement incroyable.
Le mot de la fin, Cyril Danvers.
Je veux dire la même chose pour France Télévisions, qui m'a suivi sur un projet que j'ai mis 2 ou 3 ans à monter, qui était très difficile et audacieux dans sa forme. Et franchement, j'ai trouvé des soutiens formidables.
Merci à vous, Isabelle. Vous reviendrez parce que je crois que vous avez un film qui sort. C'est un vrai bonhomme, si je suis bien informé.
Oui.
C'est le 8 janvier.
Je m'inscris.
Vivement 2020.
À suivre notre heure culture, mais tout de suite, place aux digressions des rats d'auteur avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.